Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade et Julie Delabrosse. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Emmanuel Morsdincan.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
En 1979, Pierre Bourdieu publiait La Distinction, un ouvrage majeur pour comprendre que les inégalités sont non seulement économiques, mais aussi culturelles. La culture comme élément essentiel de la reproduction des classes sociales, voilà la grande thèse de Bourdieu, très largement reprise, discutée, contestée parfois. 40 ans plus tard, à l'heure où l'on parle de l'uniformisation des goûts et des pratiques, la distinction culturelle existe-t-elle encore ? Et quel rôle la culture joue-t-elle dans la perpétuation des inégalités ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans ce troisième épisode de notre série sur la pauvreté. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Et pour en parler, nous recevons Dominique Pasquier, sociologue, directrice de recherche au CNRS et auteur de cet ouvrage publié aux Presses des Mines, Internet des familles modestes, et Philippe Coulangeon, sociologue et directeur de recherche au CNRS, auteur de Sociologie des pratiques culturelles paru à La Découverte. À 14h50, Arjuna Andrade nous présentera les nouvelles de l'écho.
Le sociologue est quelqu'un qui va se donner les moyens de faire accéder à l'explicitation des choses que personne ne veut savoir. Alors, je viens au problème des goûts. Je pense que les goûts sont une de ces choses. À la fois, c'est quelque chose dont on parle tout le temps dans une soirée un peu mondaine, un peu ennuyeuse. Quand on ne sait plus de quoi parler, on parle de cinéma. Et en fait, on fait des espèces d'échanges, de jugements de goût. Le jugement de goût est la chose la plus facile. Enfin, un jugement de vérité, c'est très difficile. Jugement de goût, on peut dire je suis pour, je suis contre. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles. Bon, alors, les jugements de goût sont à la fois quelque chose de très très superficiel et de très très profond, à travers lesquels les gens révèlent ce que j'appelle un habitus, c'est un grand mot pour dire une chose très, je crois, très complexe. C'est-à-dire une espèce de petite machine génératrice, enfin, bon, pour une analogie un peu sauvage, un programme d'ordinateur à partir duquel les gens engendrent des foules de réponses à des foules de situations, des réponses qui apparemment n'ont aucun lien entre elles, et qui, du point de vue du sociologue, en ont un, parce que le sociologue est quelqu'un qui reconstruit cette petite machine à partir de laquelle les gens ont prononcé. Bon, ce qui fait que c'est vrai que la sociologie enseigne aux gens que dans ses jugements naïf, imprudent, il livre beaucoup d'eux-mêmes.
Dominique Pasquier et Philippe Coulangeon, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez bien sûr reconnu la voix de Pierre Bourdieu lors d'un entretien avec Antoine Spire en 1990. Ce que Bourdieu a montré, Philippe Coulangeon, c'est que la reproduction des classes sociales était assurée autant par la transmission du capital culturel que par celle du capital économique.
Oui, mais on pourrait dire que c'est pas le seul auteur à s'être intéressé à cette question, puisqu'on est dans un programme qui s'intéresse à des questions économiques. Beaucoup d'économistes contemporains insistent sur l'importance des ressources culturelles au sens large dans la production et la reproduction des inégalités, notamment les ressources culturelles sous leur forme scolaire. Je pense que la spécificité de l'approche de Bourdieu s'agissant du rôle de la culture dans la production et la reproduction des inégalités, elle est assez bien illustrée par l'extrait que vous avez choisi. Au fond, ce dont parlait Bourdieu dans l'extrait que vous nous avez diffusé, ce ne sont pas forcément les ressources culturelles auxquelles pensent immédiatement les économistes. Ce sont plutôt des ressources qui sont liées au système des goûts. Le terme de goût est apparu dans cet extrait. Et je pense que la spécificité de l'approche de Bourdieu, elle est précisément là. C'est l'idée au fond, ce qui va créer de l'inégalité, ce ne sont pas nécessairement des ressources culturelles qui ont une efficacité intrinsèque dans la production des compétences des individus, mais qui ont une efficacité qui est liée à la construction sociale de hiérarchie, qui ont quelque chose d'arbitraire. Et je pense que c'est quand même ça qui fait la spécificité de l'approche de Bourdieu. Et c'est sans doute l'élément sur lequel il y a sans doute le plus à discuter, d'ailleurs. Un certain nombre d'auteurs ne s'en sont pas privés depuis.
Dominique Pasquier, un premier regard sur ce son de Pierre Bourdieu qu'on vient d'entendre, et peut-être sur cette différence qui va nous occuper tout au long de cette émission entre la culture considérée comme légitime et celle considérée comme illégitime?
Ben, je pense effectivement dans cet extrait de Bourdieu, il a parlé d'un dîner où on aurait évoqué un film qu'on a vu et il a dit, on dit on est pour ou contre, et ben finalement ça résume assez quelque chose qui est de l'ordre de la radicalisation de l'analyse de la culture par Pierre Bourdieu, à savoir que finalement les notions d'émotion, de plaisir sont très très peu présente dans les analyses qu'il propose par rapport à d'autres notions qui sont pas forcément contestables, hein, simplement elles ont pris complètement le devant de la scène, qui sont celles de se sentir légitime ou non à pratiquer certaines formes de culture par rapport à des normes. Et je pense les normes étant dictées par les élites. Je pense que c'est insuffisant. De mon côté, puisque dans tous les travaux que j'ai menés, qui sont des enquêtes de terrain sur des milieux sociaux assez diversifiés, on s'aperçoit finalement que le fond de la culture, c'est quand même aussi de l'émotion, c'est des plaisirs, c'est de l'envie de faire des choses, c'est le plaisir ressenti à les avoir pratiquées. Et ça, je pense que ça, c'est trop absent.
Alors, on va voir un peu plus loin les limites que peuvent peut-être comporter la théorie de Bourdieu sur cette distinction culturelle. Mais d'abord, peut-être nous pouvons voir si les pratiques culturelles restent encore aujourd'hui un moyen d'assignation pour les classes populaires. Et pour tenter de répondre à cette question, on peut aller voir du côté de l'INSEE. Selon les études empiriques de l'Institut, les écarts entre les groupes sociaux vis-à-vis des pratiques culturelles sont plus importantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 30 ou 40 ans. C'est aussi ce que disent les enquêtes du ministère de la Culture, Philippe Coulangeon.
Oui. Ça dépend un petit peu des critères qu'on se donne. Ce qui est certain du point de vue de l'INSEE, et c'est vrai que c'est un élément qui m'avait frappé il y a quelques années, et je pense qu'on le met pas suffisamment en avant, c'est que, alors que nous avons l'impression que nous vivons dans un univers de massification et d'une certaine façon de banalisation des biens culturels, quand on regarde les budgets des ménages, on s'aperçoit effectivement que les écarts dans le poids, dans le coefficient budgétaire, comme disent les économistes, mais dans le poids du budget culturel des ménages, les écarts entre les classes supérieures et les classes populaires sont beaucoup plus importants aujourd'hui qu'ils n'étaient il y a 20 ou 30 ans. Donc, d'un strict point de vue économique un petit peu réducteur, je pense qu'effectivement, on ne peut pas dire que les écarts se réduisent. La consommation culturelle, au sens comptable, reste quelque chose d'extrêmement distinctif, d'extrêmement séparateur.
D'une manière générale, la proportion de Français ne fréquentant ni les musées, ni monuments historiques, ni les théâtres a augmenté dans la plupart des groupes socio-professionnels, à l'exception des cadres supérieurs. Alors la crise est passée par là, certes, mais tout de même, est-ce qu'il faut considérer que ce privilège culturel, il s'est renforcé au cours du temps, Dominique Pasquier ?
Je crois que le constat statistique est indéniable. Il faut certainement pas se fermer les yeux, et c'est un gros problème pour tous ceux qui œuvrent à la démocratisation culturelle. Mais en même temps, il y a sans doute des manières de réfléchir les choses en pensant que dans les classes populaires, il y a des ressources qui sont appropriées et qui sont souvent très invisibles. J'ai l'impression que les grandes catégories qui sont utilisables en termes quantitatifs sont des catégories qui ne permettent pas de toucher ces petites pratiques qui sont souvent à la marge. Et deuxièmement, je dirais que peut-être les phénomènes les plus marquants sont moins le creusement de l'écart que la féminisation et le vieillissement du public de la culture cultivée. Je pense que là, on a deux phénomènes qui, à terme, vont faire qu'il n'y aura plus personne au théâtre, puisque ce ne sont plus que des gens très âgés qui y vont aujourd'hui, et rien ne dit qu'il y aura un renouvellement générationnel derrière.
Alors, avant de parler des questions générationnelles, des questions de genre qui vont effectivement nous intéresser, ce qu'il faut noter, c'est qu'en effet, ces études prennent toutes pour référence ce que la sociologie appelle la culture légitime. On a le sentiment que cette culture populaire, elle, est définie en creux. Et pour le sociologue Claude Grignon, c'est un héritage de Bourdieu qu'il s'agit d'interroger.
Les appellations qu'on donne sont toujours...
On risque d'oublier que lorsque l'on applique une théorie de la domination à l'étude des faits de culture, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, il y a des choses que l'on cesse de voir. Et le légitimisme commence quand on oublie ces limites-là, quand on oublie qu'effectivement on ne peut plus à ce moment-là étudier les cultures dominées dans leur autonomie. On ne peut voir de ces cultures dominées que ce qu'elles doivent à la relation de domination qu'elles entretiennent avec les formes dominantes de culture ou avec les formes légitimes de culture. Ce qui veut dire qu'il y a une déperdition, il y a un déficit descriptif, pour ne pas dire une injustice, un déficit descriptif et interprétatif de ce type de sociologie, de ce type de théorisation, à mesure qu'elle s'éloigne du pôle dominant de la culture. Elle n'a pas grand-chose à dire des cultures populaires, elle n'a pas grand-chose à dire des cultures dominées, si ce n'est qu'il leur manque beaucoup de choses. En d'autres termes, elles sont condamnées à en faire une description par défaut, une description en termes négatifs.
Le sociologue Claude Grignon dans l'émission La Suite dans les idées sur France Culture, c'était le 31 janvier 2000. La sociologie de Bourdieu, nous dit Claude Grignon, condamne à donner des cultures populaires une définition en creux. C'est ce qu'on peut dire, Philippe Coulangeon.
Je vous remercie d'avoir choisi cet extrait parce que je pense qu'on est vraiment au cœur du débat là avec cette citation de Grignon qui est très emblématique effectivement de ce que Claude Grignon et Jean-Claude Passeron ont produit dans les années 80. La distance qu'ils ont prise par rapport à Bourdieu. Je pense que la façon dont Grignon décrit la perspective de Bourdieu me paraît tout à fait juste. Je dirais que cette perspective, elle est revendiquée par Pierre Bourdieu. Je pense qu'on comprend pas grand-chose à la sociologie de Bourdieu si on oublie le fait que la sociologie de Bourdieu est une sociologie relationnelle. Autrement dit, la construction de la valeur culturelle, c'est un processus qui se fait effectivement selon Bourdieu. On peut tout à fait le discuter, mais ce qui se fait inévitablement dans la relation de concurrence, de domination qui peut exister entre différents répertoires et entre les groupes sociaux qui les portent. Donc ça, c'est effectivement la perspective de Bourdieu, assumée, je pense, par Bourdieu et par les auteurs qui s'en réclament. Et je pense qu'effectivement, le point de discussion qu'ont soulevé en France des gens comme Grignon et Passeron, mais au Royaume-Uni, tout le courant qu'on a appelé celui des cultural studies que Dominique connaît mieux que moi, mais ça a été dire oui, c'est un peu court quand même c'est cette approche au fond. Est-ce que cette approche relationnelle elle est suffisante? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'interroger les cultures dominées pour reprendre provisoirement au moins le vocabulaire de Bourdieu, est-ce qu'il n'y a pas lieu de les interroger à partir du point de vue des dominés et non pas du point de vue légitimiste qui était celui indiqué par Grignon à l'instant, oui.
Dominique Pastier, c'est le courant des cultural studies, donc ce courant anglo-saxon né dans les années 60-70 qui estime que la culture populaire est tout aussi légitime et digne d'être étudiée que la culture dite légitime.
Alors oui, je ne suis pas moi-même quelqu'un qui appartient aux cultural studies et j'ai personnellement pas mal de critiques à leur adresser. Ce qu'il y a, c'est que on a l'impression d'être pris entre deux feux, à savoir d'un côté l'hyper-résistance et l'héroïsation des cultures populaires qui est devenue quand même l'étendard des cultural studies au fur et à mesure qu'elles ont évolué. Moi, je pense que ce que j'aime des cultural studies, c'est finalement le fondateur, c'est Hogarth, c'est-à-dire une position qui est plus sur la manière dont les individus qui n'ont aucune éducation scolaire et ont quand même des ressources personnelles propres qui leur permettent d'entrer dans des systèmes culturels avec des défenses qui leur sont propres. Hogarth, pour moi, c'est une partie des cultural studies que j'accepte entièrement. Après, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup, et toutes les studies qui ont dérivé des cultural studies, il y en a à l'appel aujourd'hui, me semblent être dans une obsession de la résistance. Elles voient de la résistance là où il n'y en a pas forcément. Donc je pense qu'il faut quand même être assez prudent par rapport à ces travaux qui sont très anglo-saxons et qui sont très fortement, pour moi, populistes en fait.
Alors pour en revenir à Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, c'est dans Le Savant et le Populaire, donc paru en 1989, qu'il dénonce ce lamento misérabiliste de Bourdieu, alors même que, vous l'avez dit, Passeron a longtemps écrit avec Bourdieu. C'est à ce moment-là que s'opère véritablement la rupture, car selon eux, est-ce qu'on peut dire que Bourdieu légitime l'idée que la culture du pauvre, c'est une culture plus pauvre? Est-ce que c'est pour ça que la rupture s'opère entre Grignon et Passeron d'un côté et Bourdieu de l'autre?
C'est sans doute en partie pour cela, mais je pense qu'il faut pas non plus caricaturer le point de vue de Bourdieu sur ces questions-là, qui est assez complexe, un peu contradictoire, comme sur beaucoup de choses. Quand on relit Bourdieu à différents moments de sa vie, on trouve sur ces questions-là en particulier des positions qui sont assez fluctuantes. Là aussi, je pense que Dominique connaît ces choses au moins aussi bien que moi, mais le Bourdieu des méditations pascaliennes n'est pas exactement celui de la distinction, n'est pas exactement encore moins celui de la reproduction. Bon, donc la position de Bourdieu vis-à-vis d'Hogarth, je rappelle, Dominique Pasquier évoquait Hogarth, je rappelle qu'Hogarth a été traduit et fortement introduit en France par Bourdieu. Alors même qu'effectivement, on peut considérer qu'un certain nombre des résultats qui sont mis en avant par Hogarth sont un petit peu des éléments qui affaiblissent en tout cas une version un peu radicale des thèses de la distinction.
Ce qu'il faut noter en tout cas, et je vous donne la parole tout de suite, Dominique Pasquier, c'est que selon Grignon et Passeron, cette autonomie de la culture populaire, elle est partielle. Ils décrivent que la culture populaire est aussi capable de productivité symbolique.
Oui, et je pense la culture du pauvre a été publiée par Bourdieu dans sa collection, mais elle a été traduite et préfacée par Passeron. Et moi, pour moi, c'est Passeron qui a été quand même le grand vulgarisateur de la pensée d'Hogarth et qui a même donné un statut sociologique à cette pensée sur un livre qui était plutôt un récit personnel de vie.
Sur ce côté partiel, peut-être, de l'autonomie de la culture populaire.
Ce que je crois, c'est que là où on peut peut-être trouver une position que moi qui me semble convenable, c'est d'ailleurs, pour reprendre des mots de Passeron, les classes populaires ne sont pas tout le temps au garde-à-vous devant la légitimité culturelle. Et ça, je crois que c'est profondément vrai. La légitimité culturelle existe, j'en suis absolument convaincue. Il y a des forces derrière cette légitimité culturelle et elle est imposée par les classes supérieures. Mais il y a des moments d'oubli de la domination et je pense que c'est dans ces moments-là que les cultures populaires peuvent produire et vivre dans des sentiments d'autonomie culturelle assez forts. Et je pense, par exemple, dans les enquêtes que j'ai faites, moi, ce que je constate, c'est des gens qui aiment bien ce qu'ils aiment. Ça va. Ils sont pas en train de se demander toute la journée si le film qu'ils ont adoré au cinéma ou à la télévision plutôt, c'était un film qu'ils devraient adorer ou pas. Donc c'est cette idée qu'il y a une imposition permanente de la norme qui me semble ne pas correspondre à la réalité, ce qu'on peut observer sur les terrains.
Alors, autre jalon peut-être dans la critique des écrits de Pierre Bourdieu. En 1994, le chercheur Olivier Donat publie une étude, Les Français face à la culture, de l'exclusion à l'éclectisme, qui renouvelle les critiques. Il était invité dans l'émission Mise au point sur France Culture le 13 avril 1994.
Les appellations qu'on donne sont toujours un petit peu contestables et parties arbitraires et on pourrait discuter sur cette façon de désigner les proportions de Français. Mais il est clair, effectivement, le terme branché vise à désigner les personnes qui ont un rapport cultivé à la culture, c'est-à-dire en général qui ont un niveau de pratique important, qui connaissent la plupart des noms qui figuraient dans notre liste et qui ont la capacité à combiner des éléments anciens, classiques de la culture, avec certains éléments plus modernes apparus plus récemment, comme le jazz, la bande dessinée, certaines formes de rock, etc. Et leur statut de branché leur est donné justement par cette capacité à articuler des éléments de domaines culturels auparavant étanches ou qu'on avait tendance à considérer comme étanches.
Le chercheur Olivier Donat en 1994, Philippe Coulangeon, pour lui, la spécificité de la culture des plus aisés, c'est peut-être moins la culture dite légitime que l'éclectisme des pratiques culturelles.
Oui, ça c'est effectivement une thèse qui est devenue très populaire chez les sociologues sur ces questions-là depuis effectivement le début des années 90. Vous avez raison effectivement de nous rappeler que c'est Olivier Donat effectivement qui a mis ça en en avant dans son ouvrage de 94, qu'on a, on a tendance toujours à attribuer ça, à mon avis un peu abusivement, à un sociologue américain qui s'appelle Richard Peterson. En réalité, ce que Richard Peterson avait observé aux États-Unis à peu près au même moment, Donna l'observait à peu près de manière identique en France. Donc je pense qu'il y a eu effectivement des observations assez convergentes dans un certain nombre de pays qui laissent à penser que c'est une tendance assez robuste, à savoir que ce qui différencie de plus en plus les répertoires de goût, les répertoires de pratique selon les milieux sociaux, c'est sans doute davantage le degré de diversité du portefeuille de goût, si je puis dire, que simplement le degré de légitimité. Les deux éléments sont pas non plus totalement contradictoire, en ce sens que cette question de l'éclectisme, c'est quelque chose d'assez dissymétrique quand même. C'est-à-dire que ce sont quand même en général ceux qui ont accès aux ressources les plus légitimes qui ont aussi les pratiques les plus diversifiées. Le mouvement se fait rarement en sens inverse, c'est-à-dire partant de répertoires très très peu légitimes, on va conquérir la culture légitime. Ça peut exister, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent.
Et alors justement, dans quelle mesure cet éclectisme dont parlent Donna et Peterson remet en question les théories de Bourdieu sur la reproduction des classes sociales ?
Je ne pense pas qu'elle les remette en question. Pour moi, non. Bourdieu pourrait très bien analyser ça comme une sorte de capital supplémentaire.
Mais
le faisait peut-être directement. Oui. Donc ça ne remet pas en question. Je pense que c'est plutôt là où on rentre plus, moins, à mon sens, dans une discussion de la distinction et de la théorie de Bourdieu que dans une discussion des évolutions, des pratiques culturelles et des combinaisons dans les portefeuilles de goût qui sont de plus en plus complexes, en fait, aujourd'hui. Et c'était certainement beaucoup moins difficile à étudier dans les années 70 que ça l'est actuellement, notamment parce qu'il y a une multiplication des supports de diffusion.
Olivier Donna considère, dans les années 90, donc, que les évolutions qui ont eu lieu dans le champ culturel depuis les années 60 ont partiellement brisé les mécanismes qui assuraient la reproduction. Alors de quel changement parle-t-il, Philippe Coulangeon ?
Il y a deux choses quand même sur cette histoire d'éclectisme. C'est quand même en partie un petit peu un artefact, si je peux employer un mot un peu compliqué, mais en ce sens que, pour revenir à un point que vous avez évoqué au début de l'émission, si on observe plus d'éclectisme dans les enquêtes aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans, c'est aussi parce qu'on mesure une plus grande diversité de pratiques qu'il y a 30 ou 40 ans. Je rappelle quand même que les premières enquêtes sur les pratiques culturelles du ministère de la Culture, la rédaction des questionnaires était assez caricaturale. C'est-à-dire dans le domaine des goûts musicaux, par exemple, un domaine que j'ai un peu plus étudié, en gros, la nomenclature des goûts musicaux, c'était musique classique, musique romantique, opéra, musique contemporaine, variété. Donc évidemment, à partir du moment où vous avez une nomenclature comme celle-là, vous produisez pas le même genre de résultat que lorsque vous avez une nomenclature un peu plus complexe et un peu plus qui colle un peu plus à la réalité des pratiques telles qu'on l'a aujourd'hui avec la grande variété des genres populaires. Bon, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois effectivement pas que ça remet vraiment en cause le mécanisme. Je pense qu'il y a une erreur qui est faite dans la lecture de Bourdieu, en fait surtout dans la lecture américaine de Bourdieu, mais la lecture américaine de Bourdieu a refranchi l'Atlantique d'une certaine façon, et au fond on interprète souvent la distinction comme une sorte de raisonnement un peu schématique de correspondance mécanique entre des positions sociales et des répertoires culturels. Or c'est pas ça que dit Bourdieu. Hein. Au fond, il y a un mécanisme effectivement de correspondance, mais qui, selon les époques historiques, peut s'incarner de différentes façons. Et je crois assez fondamentalement que les évolutions qu'avaient observées Donna ou Peterson aux États-Unis, eh bien, elles sont emblématiques d'une évolution de l'incarnation des formes de distinction culturelle. Mais le processus reste assez fondamentalement le même, je pense.
On aurait donc toujours un mécanisme de distinction par la culture, sauf que désormais, ce serait la capacité d'assimilation de la nouveauté et de la différence qui distinguerait les classes supérieures des classes populaires.
Dominique
Pasquier.
Par exemple, je pense à un ouvrage de Bernard Lahire, La culture des individus, où il va vraiment défendre cette hypothèse-là, c'est-à-dire que il y a des phénomènes, il appelle ça de la dissonance, il n'appelle pas ça de l'éclectisme, c'est-à-dire une combinaison de goûts qui, a priori, ne relève pas des mêmes hiérarchies de légitimité, se situe pas au même niveau dans les hiérarchies de légitimité, mais pour l'haïr, ce qui montre c'est que la dissonance existe chez tous les individus. Simplement, elle est beaucoup plus fréquente dans les milieux diplômés qu'elle ne l'est dans les milieux non diplômés. Donc oui, ça remet pas en question, en fait. C'est pas là qu'on peut contester, je trouve, la théorie bourdieusienne sur la culture. Je pense qu'elle est beaucoup plus attaquable dans la radicalité et l'enfermement dans lesquels elle positionne les cultures populaires comme étant des cultures qui sont définies par le manque, par l'absence, par rapport à un regard qui vient du haut. Et c'est ce côté-là qui me semble plus problématique, surtout quand on parle avec les individus et qu'on s'aperçoit que ces phénomènes de légitimité culturelle et cette définition de la culture populaire par le haut, bah c'est des catégories savantes, hein, c'est pas les catégories qu'utilisent les gens.
Philippe Coulangeon.
Oui, alors je crois que la position de Bernard Lahire me semble beaucoup plus riche que celle de Peterson dont on a parlé avant. Parce que cette histoire de dissonance, je crois que ça va quand même plus loin que cette histoire d'éclectisme.
En fait, derrière l'idée de dissonance, je rappelle, c'est la coexistence chez un même individu, ouais, de goût culturel qui puise à la fois dans des formes légitimes et illégitimes.
Parce que la thèse de Lahire me paraît plus riche, parce que elle interroge un autre concept de la sociologie de Bourdieu qui était évoqué dans l'extrait du début d'émission, qui est le concept d'habitus, qui présuppose au fond que les pratiques des individus dans différents domaines, et pas simplement dans le domaine culturel, ont une cohérence très forte. Et au fond, ce à quoi s'attaque Lahire dans le livre que vous avez cité, c'est ça. C'est est-ce que finalement les pratiques des individus dans différents univers ont véritablement la cohérence qu'on leur prête. Et ça, je pense que c'est une hypothèse très riche, qui n'est pas suffisamment creusée à mon avis, parce que je pense que ce qu'il y a à creuser derrière ça, c'est l'idée qu'effectivement, selon, si on reste dans le domaine culturel au sens étroit, selon les domaines, bah, nous sommes les uns et les autres exposés à des influences socialisatrices qui peuvent être très contradictoires. On peut avoir reçu une éducation très légitimiste dans le domaine littéraire, mais pas légitimiste du tout dans le domaine musical, ou l'inverse. Et ça, je pense que c'est effectivement un point, non pas de critique ou d'affaiblissement, mais un point d'enrichissement, je pense, de l'approche de ces phénomènes. L'idée qu'effectivement, il peut y avoir de la pluralité et de la contradiction dans les formes de socialisation culturelle.
Donc, si je vous comprends bien, cet éclectisme, ce nouveau phénomène de l'éclectisme dont on parle, ne peut pas être interprété comme un indicateur de démocratisation culturelle.
C'est autre chose. Ça, je pense pas que ça touche à la démocratisation culturelle. Il faut pas le poser comme ça. Je pense qu'effectivement, ce qu'apporte le livre de Lahire, c'est cette idée que on ne vit pas dans un seul contexte de socialisation. Et peut-être que chez Bourdieu, on est trop sur des contextes de socialisation de type verticaux, hein, c'est-à-dire la transmission familiale au premier chef, bien sûr, et la transmission scolaire qui est renforcée par la transmission familiale. Mais si on est avec si on s'ouvre un peu, ce que fait Lahire en disant bah, il suffit de divorcer et le nouveau conjoint va apporter quelque chose d'autre en termes de portefeuille de goût ou de pratiques culturelles que n'avait pas la personne. Donc toutes ces petites mobilités culturelles qu'analyse Lahire, moi c'est ça que j'ai trouvé absolument passionnant dans son livre, parce que ça permet peut-être d'avancer sur un schéma qui est un petit peu plus horizontal au moment où l'individu progresse dans son parcours de vie. Il va entrer en contact avec beaucoup de gens différents et acquérir à ce moment-là une socialisation éventuelle à des nouvelles pratiques.
Il ne m'a pas appris l'anglais, il ne m'a pas appris l'allemand, ni même le français correctement. Elle ne m'a pas parlé des livres, de l'histoire des idées. Pas de politique à suivre, pas de mouvement de pensée. Elle ne m'a rien montré de pratique, ni cuisine, ni couture. Faire monter une mayonnaise, monter une SARL, tenir un intérieur. Il ne connaissait pas grand-chose en mathématiques, ni équations de Schrödinger. Mais pour être honnête, on a veillé à ce que je perfectionne mon revers à deux mains. Que je fléchisse bien sur mes jambes, mais ça n'est pas resté, ça n'est pas rentré. On m'a donné un modèle libéral, démocratique. On m'a donné un certain dégoût, disons, désintérêt de la religion. Mais il ne m'a pas dit à quoi servait le piano, ni le cinéma français qui pourtant le faisait vivre. Elle ne m'a pas dit comment elle s'était mariée, trompée, séparée, ni donné d'autres modèles à suivre. On m'a pas parlé de Marx, rival de Tocqueville, ni Weber, ennemi de Lukács. Mais on m'a dit qu'il fallait voter. Elle n'a pas caché l'existence, mais a tu celle de Rousseau, de Proust, de mort à crédit. Ils n'ont fait aucun commentaire sur mes 68, ni commentaire sur la société du spectacle. Mais ils savaient que Balzac était payé à la ligne, qu'on pouvait en tirer un certain mépris. Il ne connaissait pas d'histoire de résistance ou de Gestapo, mais quelques arnaques pour payer moins d'impôts. Il se souvenait en souriant de la carte du PC de leur père, mais peu de De Gaulle, une blague sur Pétain. Rien sur Hitler. Ils avaient connu le monde sans télévision, mais n'en disaient rien. Ils n'avaient pas voulu que je regarde Apocalypse Now, mais je pouvais lire Au cœur des ténèbres. Je ne l'ai pas lu. On m'a pas dit que c'était bien. On m'a pas dit comment faire avec les filles, comment faire avec l'argent, comment faire avec les morts. Il fallait trouver comment vivre avec demi-frères, demi-sœurs, demi-morts, demi-compagnes, maîtresses et non mariées, alcooliques, pas français. Fils de gauche, tu milites, milites, fils de droite, hérite, profite. On ne m'a pas donné de coups, on m'a sans doute aimé beaucoup. Il n'y avait pas de choses à faire, à part peut-être polytechnicien. Il n'y avait pas de choses à ne pas faire, à part peut-être musicien. Elle m'a fait sentir que la drogue était trop dangereuse. Il m'a dit que la cigarette était trop chère. Elle m'a dit qu'une fois, elle avait été amoureuse. Elle ne m'a pas dit si ça avait été de mon père. Elle ne m'a pas dit comment faire quand on se sent seul. Il ne m'a pas dit qu'entre vieux amis, souvent, on s'engueule. On s'embrouille, que tout se brouille, se complique, qu'il faudrait faire sans. Elle ne m'a rien dit sur Freud et j'ignore Lacan. Pas de conseils ni de raisons pratiques, pas de sagesse des familles, pas d'histoire pour faire dormir les enfants, pas d'histoire pour faire rêver les grands. Il ne soufflait mot de la nouvelle vague ni de ce qu'on voyait avant, mais parlait du Louvre comme d'un truc intéressant. On disait rien sur Michel Sardou, mais on devait aimer Julien Clerc, on m'a parlé d'un concert. Sinon je ne sais rien des pauvres, je ne sais rien des restes d'aristocrates, je ne sais rien des gauchistes, je ne sais rien des nouveaux riches. On ne parlait pas de cathos, ni de juifs, ni d'arabes. Il n'y avait pas de chinois. Elle trouvait que les noirs sentaient, elle n'aimait pas les odeurs. Lui s'en foutait.
Vous écoutez France Culture ? Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Et vous écoutez doublement France Culture, puisque c'était aussi le nom de la chanson, une chanson d'Arnaud Florent Didier. On est toujours avec Dominique Pasquier et Philippe Coulangeon, sociologue et directeur de recherche au CNRS. Et nous parlons donc de cette distinction culturelle. Est-elle de Bourdieu? Est-elle toujours d'actualité? L'école peut-elle gommer les inégalités culturelles? C'est ce qu'on va se demander maintenant. Ou la culture dite légitime s'acquiert-elle plutôt en dehors de l'école? De 2003 à 2016, Julie Gavras a suivi l'entrée dans l'âge adulte de 8 adolescents qui ont grandi dans le 7e arrondissement de Paris et notamment de Clotilde.
Ben, le lundi soir, j'ai piano. Bon, le mardi, c'est 7h. En cours à 8h, c'est toujours très sympa. Et ensuite, je rentre. Je rentre de cours, il est assez tard déjà. Le mercredi après-midi, souvent, je sors, je vois pas mal de copains, comme je suis mis assez tôt. Puis bon, j'ai mon cours d'art plastique à 4h30 qui me coupe un petit peu mon après-midi quand même. Le jeudi soir, j'ai danse. Et sinon, le vendredi, j'ai rien de particulier. Souvent, je vais dormir chez une copine. Souvent, je me couche vers 5h. Souvent, j'arrive le samedi matin très, très en forme. Et le samedi midi, je pars directement monter à cheval. Je retourne chez moi, je dîne, je sors, je remonte à cheval, je rentre à Paris.
Voilà un extrait du documentaire de Julie Gavras, Les bonnes conditions, diffusé sur Arte en mai 2018. La massification scolaire, Philippe Coulangeon, n'a eu qu'un impact limité. La culture extrascolaire est toujours autant valorisée?
Ah, c'est assez compliqué cette affaire-là, parce que, bon, évidemment, l'extrait là, que vous avez donné du film de Julie Gavras nous met face à des figures sociales un peu caricaturales, si je puis dire, mais elles existent. Bon, c'est un petit peu compliqué cette affaire-là, parce que évidemment, je pense que toute une partie de la sociologie, de l'éducation et de la culture, dans le sillage de Bourdieu en particulier en France, s'est construite autour de l'idée que ce qui était producteur d'inégalités dans le système éducatif, c'était notamment le fait que le système scolaire sanctionne un certain nombre de compétences qu'il ne transmet pas lui-même, mais qui relèvent d'héritages culturels familiaux. Avec cette idée la sélection des ressources culturelles sanctionnées positivement par l'école relève d'une forme d'arbitraire social. Au fond, l'école valorise les éléments de culture bourgeoise dont les enfants bien nés peuvent faire la démonstration dans les exercices de la vie scolaire et pénalise ceux qui ne les ont pas.
Et on peut donner un exemple très concret pour l'expliquer. C'est par exemple une dissertation dans laquelle on va dire mobiliser à la fois vos connaissances scolaires et vos connaissances personnelles.
Alors, pourquoi je dis que c'est un petit peu plus compliqué, c'est que je pense quand même que les enseignants les sont quand même pas dupes de tout ça. Je veux dire, ça commence à être vieux, toutes ces théories là. Donc il y a quand même eu, en l'espace de 40 ou 50 ans, quand même énormément de transformations dans le système scolaire, dans les programmes scolaires, dans les manières d'enseigner, où on essaie évidemment d'essayer de contrôler ces phénomènes là. Donc de ce point de vue là, je pense qu'il y a une vraie conscience dans le système scolaire de ça. Ce qui rend les choses un peu plus compliquées, c'est que je pense que les mécanismes de reproduction familiale se déplacent peut-être un peu aujourd'hui sur d'autres types de ressources. Pour le dire assez vite, parce que c'est une question qui me frappe et m'intéresse pas mal en ce moment, je pense qu'aujourd'hui c'est sans doute moins la fréquentation de la salle Pleyel ou de l'Opéra Garnier qui donne aux enfants d'origine privilégiée leurs privilèges culturels à l'école, que peut-être des choses comme la maîtrise des langues étrangères ou d'autres atouts qui sont aujourd'hui fortement valorisés dans la vie scolaire et sociale. Donc, là encore, hein, l'inégalité culturelle transmise et reproduite par la famille, ça existe, mais ça peut changer de forme.
Dominique Pasquier, vous êtes d'accord avec ça? La valorisation des activités extrascolaires est peut-être moins forte qu'auparavant?
Ouais, je crois que Philippe a tout à fait raison. En fait, il y a une sorte de déclassement, surtout dans les jeunes générations, de la culture cultivée. Mmh. Alors, on peut dire que du côté des performances scolaires, elles continuent d'être un atout, mais certainement que les formes les plus extrêmes de culture cultivée, la musique classique, l'opéra, etc., sont des formes qu'il n'est pas aujourd'hui nécessaire de maîtriser comme ça a pu l'être il y a 40 ans dans un certain système scolaire d'élite, alors que effectivement, l'adaptation au monde, la capacité à utiliser les nouvelles technologies, les langues étrangères sont des atouts peut-être plus importants aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des formes, mais ça, depuis le début de l'émission, c'est ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que la bourse culturelle, elle évolue sans arrêt. Donc c'est pas du tout, on peut absolument pas dire à un moment X que c'est pour toujours comme ça. Donc c'est ces évolutions qu'il faut suivre.
Philippe Coulangeon.
Si je peux revenir un instant sur l'extrait du film de Julie Gavras, qui est vraiment un film très riche là-dessus. En fait, qu'est-ce qu'on entend dans les propos de cette jeune femme? On entend quelqu'un qui a beaucoup d'activités qui sont effectivement des activités culturellement très légitimes. Mais la première chose que j'entends, c'est que c'est une jeune femme qui... c'est même une adolescente au moment où on l'interroge. C'est une adolescente qui a surtout énormément d'activités, c'est-à-dire dont le temps est totalement encadré. Et là, je pense que c'est un sujet sur lequel il y a eu énormément de travaux en France et à l'étranger qui montrent qu'effectivement, le privilège scolaire, il se construit aussi beaucoup par ce biais-là, c'est-à-dire par le biais de l'encadrement, non seulement du temps scolaire, mais du temps extrascolaire. J'irais presque jusqu'à dire peu importe le contenu, mais il se trouve que ce sont aussi le privilège culturel des classes supérieures, il est aussi celui de pouvoir offrir à ses enfants des activités multiples et variées qui mettent un peu à l'abri de l'ennui et de son une forme de déréliction dont on peut connaître les inconvénients en matière scolaire.
Alors la culture élitiste dans un lycée d'un quartier populaire, c'était le sujet du film d'Abdelatif Kechiche, L'Esquive, dans lequel des adolescents répétaient une pièce de Marivaux, extrait.
Votre bonté m'éblouit, et je me prosterne devant elle.
Arrêtez-vous, je ne saurais vous souffrir dans cette posture-là. Levez-vous, voilà encore quelqu'un. Voilà encore quelqu'un. Frida, tu fais quoi là?
Monsieur, il faut que je parle à madame.
Non, non, franchement, la vérité, franchement, Frida, t'en fais trop là. Je sais pas, c'est trop, c'est pour toi, je vais t'afficher.
Attends, toi, c'est pas la garde avant de parler de moi, je te regardais comment tu fais toi avec ton éventail ou je sais pas quoi.
Et alors, moi j'ai le droit de faire ça, c'est moi qui fais la bourge dans l'histoire.
Ouais, et alors, tu me critiques et tu veux pas que je te critique.
Mais moi c'est la bourge, c'est ça les bourges, oui, c'est ça les bourges.
Acte 2, scène 5, on recommence, merci.
Voilà un passage de L'Esquive d'Abdelatif Kechiche. Qu'est-ce que cet extrait nous raconte, Dominique Pasquier, Philippe Coulangeon?
J'aime beaucoup ce film.
Dominique Pasquier.
Il m'a beaucoup marqué au moment où je travaillais sur les cultures lycéennes, parce que effectivement, je travaillais sur des formes d'appropriation inversées, croisées, complexes des éléments de toutes les formes culturelles. Et ce que nous apprend cet extrait, c'est non seulement la difficulté que pourrait avoir l'école à faire passer, même sous une forme de répétition de théâtre là d'une pièce, à faire passer un certain type de produit culturel, mais ça raconte aussi l'histoire d'un garçon qui n'arrive pas à faire ce que fait une fille. Et je pense que on peut voir vraiment ce film aussi uniquement comme ça, presque, à savoir que les filles ont moins peur. Que les garçons ont moins peur de s'afficher pour parler jeunes si elles manient des goûts qui sont pas forcément ceux des autres autour d'elles. Et je pense que les garçons, c'est beaucoup plus difficile. Et donc ce film peut se lire sur ces deux modes, à mon avis, aussi bien l'un que l'autre.
Philippe Coulangeon, une réaction sur cet extrait ?
Oui, souvent, moi aussi, comme beaucoup de gens, je pense que c'est un film qui m'avait frappé à sa sortie. Et là, en réécoutant cet extrait, là, je repense à quelque chose dont il était question au début de l'émission. On voit, on entend aussi des adolescents qui sont pas dupes de l'arbitraire culturel. Au fond, le garçon lui dit, la fille qui lui dit c'est la culture de Bourges, ou je sais pas quoi. Et on entend un peu cette forme de résistance à la domination. C'est-à-dire que des enfants qui sont pas dupes du système dans lequel ils sont, dont ils sont acteurs, mais dont effectivement on peut à certains moments leur donner la possibilité de devenir un petit peu plus acteurs qu'ils ne sont d'habitude. Mais voilà. Bon.
Il y a une question importante qu'on n'a pas encore posée, c'est celle de la culture de masse, qui serait le vecteur d'une uniformisation des pratiques. Est-ce que cela mène aujourd'hui à un brouillage des frontières entre les classes sociales, ce qu'on appelle la moyennisation ? Quel est le rôle joué par la culture de masse aujourd'hui ? Dominique Pasquier.
C'est une question compliquée parce que je ne sais pas ce que vous entendez exactement par le terme culture de masse. Mais disons, si on prend par exemple l'exemple de la télévision, qui fait typiquement partie des médias de masse, ça reste très très clivé socialement. Hein. On est d'accord. Donc la culture de masse, elle touche pas de la même manière exactement tous les milieux sociaux. Donc je pense que non, la culture de masse ne crée pas par son existence même une moyennisation de la culture chez tous les adolescents, par exemple. Ça n'est pas le cas.
Le fait que les modes de vie se standardisent entraînerait la disparition des classes sociales, c'est ce que dit le sociologue Henri Mandras, par exemple.
Oui, Mandras et Fourastier aussi ont beaucoup travaillé sur ces questions de moyennisation, mais en fait, leurs analyses portaient beaucoup plus, finalement, sur des rattrapages en termes de style de vie. C'était de l'équipement électroménager, c'était l'habitation qui était moins... Il n'y avait pas des logements sordides pour les pauvres et puis des logements magnifiques pour les riches. Il y avait une sorte de rattrapage de ceux qui étaient les plus démunis par rapport à ceux qui l'étaient plus. Donc toutes ces analyses sur la moyennisation des années plutôt 60-70 sont des analyses qui correspondent à ce qu'on pouvait entendre par moyennisation à l'époque. Et je pense que c'est pas tout à fait la même chose. La
culture rappelez-nous de masse, peut-être en quelques mots ce qu'on entend par moyennisation.
Ça serait l'idée que finalement il y aurait moins de différence entre les classes sociales et qu'il y aurait une sorte d'alignement sur ce qu'on pourrait appeler les classes moyennes. Encore faudrait-il définir ce que sont les classes moyennes aujourd'hui, c'est particulièrement difficile. Mais cette idée que la culture de masse entraîne automatiquement une moyennisation de la culture, j'y crois absolument pas, moi.
Philippe Coulangeon, est-ce que ce qu'on constate, c'est que finalement la force de frappe de l'industrie culturelle dite de masse demeure peut-être plus limitée à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie sociale ?
Oui, on peut dire les choses comme ça. Je pense qu'il faut quand même pas totalement sous-estimer l'importance des phénomènes de massification de la production de certains types de biens culturels. Il y a au fond, effectivement, je pense que les modes de vie ont sans doute un peu changé de manière transversale à l'égard. Alors, de façon variable selon les périodes, mais à l'égard de certains types de pratiques, certains types d'équipements, la télévision hier, le smartphone aujourd'hui, etc. Bon. Mais dès qu'on plonge un petit peu dans le fait que les gens sont équipés ou pas, qu'ils pratiquent ou pas, dès qu'on plonge un petit peu dans le détail des pratiques, on retrouve évidemment énormément de différenciations, c'est-à-dire à la fois dans si on prend la télévision, enfin le type de programme regardé, le nombre d'heures qu'on passe devant la télévision, le type de distance qu'il y a aussi par rapport au programme. Un même programme télévisé, par exemple, peut faire l'objet de réceptions extraordinairement variées selon les personnes qui le regardent. Donc bon, je pense que c'est en partie effectivement illusoire, cette affaire de massification.
On continue à interroger en tout cas la validité, si je puis dire, de la distinction opérée par Bourdieu. Et alors il y a d'autres angles morts de la pensée de Bourdieu, et notamment le fait qu'il n'opère pas précisément de distinction selon les générations. C'est ce qu'on commençait à dire. Dominique Pasquier, vous avez écrit un livre intitulé « Les cultures lycéennes » dont le sous-titre était « La tyrannie de la majorité ». Selon vous, chez les adolescents, il y aurait une tyrannie des normes qui ne serait pas celle de la culture légitime, mais celle de la culture de masse.
Alors oui, effectivement, c'était une thèse que je défendais dans cet ouvrage et qui n'est pas une thèse nouvelle, disons, puisqu'elle a été travaillée par beaucoup d'autres auteurs sur les effets de conformisme social qui sont particulièrement prégnants dans les groupes de sociabilité juvénile. Mais disons que dans cet ouvrage, peut-être l'idée nouvelle, c'était de dire qu'il y avait... À cause du développement des moyens de communication à distance, le téléphone, Internet, etc., il y avait un renforcement de l'action des sociabilités horizontales, la transmission horizontale, par rapport à une transmission horizontale, j'entends, entre enfants, enfin entre jeunes, par rapport à une transmission verticale familiale, par exemple, ou d'enseignants à élèves, ou de parents à enfants, et que donc, finalement, ces nouveaux moyens de communication avaient contribué à accélérer finalement le poids de cette transmission horizontale. Cette transmission horizontale étant, de ce que je pouvais en observer dans cette enquête, assez fortement vécue comme une obligation de savoir ce que les autres aiment pour ne pas trop se démarquer des goûts majoritaires des groupes.
C'est pour ça que vous parlez d'une inversion de la domination, c'est-à-dire que la domination...
Je ne parlais pas de domination, mec.
Vous parlez d'inversion, en tout cas, de cette notion selon laquelle la puissance...
La conformisme.
En tout cas, la puissance viendrait de la majorité.
Voilà, la tyrannie de la majorité, moi, ça faisait référence à Hannah Arendt, c'est-à-dire l'idée que, finalement, la tyrannie d'un groupe d'enfants est plus forte que l'autorité parentale, elle est beaucoup plus dure et il est beaucoup plus difficile d'y résister, un texte d'Arendt qui défend cette idée, je la crois profondément juste.
Donc on peut dire que la transmission culturelle des parents aux enfants, Philippe Coulangeon, aujourd'hui, elle ne s'opère plus de la même façon.
Oui, enfin, je rebondirai sur ce que disait Dominique. Moi, j'avais été tout à fait frappé par son livre de 2005 là, sur les cultures lycéennes et sur cette idée de tyrannie de la majorité. Je partage tout à fait le constat. J'en fais une analyse peut-être un petit peu différente, mais qui est pas contradictoire, qui est un peu complémentaire. C'est que je crois qu'il y a aussi derrière ça un effet de composition qui est lié à la transformation des caractéristiques sociales de la population scolaire. Il y a une autre massification derrière ça, qui est la massification scolaire. Au fond, dans une situation où dans les lycées les enfants d'origine populaire étaient ultra minoritaires, bah au fond on peut imaginer que la norme culturelle était celle des groupes majoritaires qui étaient plutôt des enfants de bourgeois, dans une situation où c'est finalement l'inverse, où dans la population lycéenne et bien du fait de la massification scolaire les enfants d'origine moyenne ou populaire deviennent majoritaires, et bien il n'est pas si surprenant que finalement les formes de socialisation et d'influence s'inversent un tout petit peu. Pour le dire autrement, le paradoxe c'est que c'est au moment où l'école a accru son emprise sur la population que d'une certaine façon elle a perdu son monopole culturel. Voilà.
Mais alors est-ce que si cette transmission culturelle des parents aux enfants ne s'opère plus de la même façon, est-ce qu'on peut dire que le modèle bourdieuvien est dépassé au moins sur ce point?
Non, je ne crois pas. Enfin...
Dominique Pasquier. Non,
personne ne dit que la transmission culturelle parent-enfant ne s'opère plus. Hein. Mmh. Elle s'opère encore. Ce qu'il y a, elle est contrariée ou par cette montée en puissance des transmissions horizontales entre jeunes. C'est-à-dire la culture juvénile est devenue presque... elle a toujours existé, mais simplement elle a une force de pression à la conformité qui est sans doute accélérée par le fait qu'on est tout le temps en contact avec ceux de son âge, même quand on est rentré chez soi. où finalement la conversation continue sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux de smartphones.
Alors il y a peut-être un autre angle mort dans les écrits de Bourdieu, c'est le fait qu'il n'opère pas de distinction dans les pratiques culturelles selon des critères ethniques et de genre. C'est ce sur quoi vous avez beaucoup travaillé, Dominique Pasquier.
Alors très très peu sur les critères ethniques. En revanche,
sur les critères de genre.
Philippe, je crois que tu as publié un article sur
cette
question.
Oui, il y a très longtemps, mais ça n'allait pas très loin parce que c'est sur des questions qui sont assez difficiles à aborder dans le contexte français, notamment quand on veut travailler un peu sur des données un peu macro, les variables ethniques sont des variables qu'on peut, pour ainsi dire, pas renseigner dans les enquêtes, donc c'est vraiment une dimension. Je dirais pas que c'est un point aveugle de la sociologie de Bourdieu. Ça, c'est un point aveugle de la sociologie française.
Bon. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que ces mécanismes de différenciation qu'on pourrait appeler secondaires, par exemple, la question du genre, elles sont plus prononcées aujourd'hui dans les classes populaires que dans les classes aisées.
Alors, Dominique Pasquier. Je pense que la question se situe moins là que sur le fait que, effectivement, il y a eu un fort Bourdieu n'a absolument pas traité de façon frontale dans ses travaux sur la culture la question du genre. Et je pense qu'aujourd'hui, cette question a pris une importance décisive. J'en parlais en tout début d'émission. Je pense que le phénomène de féminisation de la lecture, de la pratique du théâtre, de tout ce qui est culture cultivée, est un phénomène qui est très très fort aux États-Unis, plus fort qu'il n'est en France actuellement. Mais on risque d'aller vers les mêmes tendances. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très qu'il faut suivre de façon très approfondie pour comprendre pourquoi il y aurait ces univers masculins et féminins, avec un univers masculin qui bascule assez souvent vers les cultures populaires quand on est dans des groupes de garçons adolescents, et des univers féminins où au contraire se maintiennent plus facilement des formes d'accès ou de plaisir à la culture cultivée, la lecture en étant le meilleur exemple.
Alors on arrive presque au terme de cette émission, peut-être pour conclure, on peut dire que les pratiques de lecture transcendent les classes sociales, puisque le nombre de gros lecteurs, donc ceux qui lisent plus de 20 livres par an, diminue à part égale dans toutes les catégories. Donc peut-être pour conclure, est-ce qu'on peut dire que les formes les plus légitimes de la culture fonctionnent donc moins qu'auparavant, comme un marqueur social très fort?
Ça va, même un peu plus loin que ça, parce que si mes souvenirs sont bons, le recul de la proportion de forts lecteurs est même plutôt plus prononcé dans les catégories supérieures que dans les autres catégories.
Comment
parce
on l'explique
qu'on parle parce qu'on part de plus haut, il y a un effet. Bon. Mais bon, c'est compliqué la lecture l'interprétation des statistiques sur l'évolution de la lecture. Parce que là, il y a un vrai effet de légitimité. Une partie du problème est sans doute liée au fait qu'il est aujourd'hui moins illégitime d'avouer qu'on est non lecteur qu'il y a 40 ou 50 ans. Hein, ça, c'est un effet de situation d'enquête qui est bien connu, chez les étudiants en particulier, que nous fréquentons. Je pense qu'aujourd'hui, s'afficher comme un non lecteur est quelque chose qui n'est pas du tout scandaleux. Il y a 50 ans, c'était sans doute plus difficile.
Donc le fait de ne plus lire, c'est moins un marqueur social, Dominique Pasquier, ou de moins lire.
Je pense qu'il y a une évolution absolument de cette appréciation ou de cette valeur de la lecture de livres qui a beaucoup changé, absolument.
Merci beaucoup à tous les deux. Il est 14h51, l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur le projet de passe culturel du gouvernement.
Oui, alors que la ministre de la Culture déclarait ce matin même sa volonté de combattre les différentes formes de ségrégation culturelle afin qu'aucun enfant ne se détourne d'une pratique car il ne se sentirait pas légitime, il était intéressant de revenir sur le dispositif que le gouvernement entend placer au cœur de sa politique culturelle. C'était en effet une promesse du candidat Macron qui voulait faire de cette mesure le fer de lance d'une politique de découverte et de diversification des pratiques culturelles des jeunes, selon les mots du gouvernement, mais qui soulève en réalité un certain nombre de questions et de critiques quant au périmètre des activités et des pratiques proposées.
Il faut dire que ce pass culturel se matérialise sous la forme d'une application au contenu très varié.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, une richesse des offres, d'ailleurs revendiquée par la ministre, qui insistait sur la nécessité de proposer un choix pour tous les profils, récusant toute forme de snobisme culturel, je cite. Les 500 euros offerts sur ce pass à tous les jeunes entrant dans la vie adulte permettraient donc de découvrir une myriade de contenus et de pratiques culturelles allant des sorties au théâtre, au cinéma, aux jeux vidéo et aux abonnements musicaux en passant par les sorties dites culturelles comme une semaine d'archéologie ou la découverte d'un métier d'art. Une liste enthousiasmante qui se veut en effet le reflet de la richesse de l'offre culturelle proposée sur l'ensemble du territoire français. Mais le dispositif, qui sera notamment proposé sous la forme d'une application pour le téléphone portable, soulève un certain nombre de questions tant il semble épouser parfaitement le glissement actuel du choix et de l'éclectisme vers la facilité du zapping automatisé.
Le dispositif reprend d'ailleurs tous les codes de l'application de rencontre.
Effectivement, les jeunes adultes qui utiliseront ce pass culturel verront ainsi défiler des offres affichant une image émotion censée réveiller votre désir, selon les mots mêmes du ministère de la Culture, ainsi qu'une distance et un prix. Si votre curiosité ou votre réflexe primitif, en l'occurrence, est éveillé par cette image émotion, vous pourrez alors pousser l'offre vers le haut pour avoir plus d'informations. Dans le cas contraire, glissez l'image vers la gauche pour faire disparaître la proposition. Le problème, c'est que sur les applis de rencontre, la place laissée à la découverte, au tâtonnement, est assez fine. Les utilisateurs passent rapidement sur des profils qu'ils identifient en une fraction de seconde comme correspondant ou non à un désir, un intérêt. Le risque est donc immense de se ruer directement vers les signaux familiers. Et c'est la même critique qui est adressée au dispositif du gouvernement. Lancé dans la multitude des offres culturelles, sans le moindre travail de médiation ou de prescription, les jeunes bénéficiaires risquent de se diriger immédiatement vers ce qui leur parle, laissant de côté toute une foule de découvertes perdues dans la masse des pratiques plus lointaines.
C'est ce que l'on avait appelé l'effet Star Wars.
Oui, des acteurs du monde de la culture s'étaient émus du fait que l'on propose sur le même plan des initiatives culturelles chez des acteurs indépendants et des places pour aller voir le dernier blockbuster au cinéma. D'autres leur répondant qu'il était absurde de disqualifier une pratique culturelle sous prétexte qu'elle ne correspondrait pas au code d'une élite intellectuelle autoproclamée. Répondant à ces critiques, le ministère a d'ailleurs précisé que l'algorithme du pass culture favoriserait les propositions émanant d'acteurs publics et indépendants afin de ne pas laisser un boulevard absolu aux géants du numérique et du divertissement. Une affirmation qu'il conviendra toutefois de contrôler quand on sait que le projet, chiffré à 500 millions d'euros, devrait être financé à 80% par le secteur privé avec une très forte représentation des géants du numérique. Mais il convient aussi de rappeler que si l'objectif affiché du gouvernement est effectivement de lutter contre la ségrégation culturelle qui sévirait en France, c'est bien avant l'entrée dans la vie adulte qu'il faudrait agir. Seule une véritable éducation artistique et culturelle, offerte dès le plus jeune âge par le biais de l'école notamment, permettrait d'éveiller la curiosité des plus jeunes à des pratiques diverses, issues ou non de la culture bourgeoise. L'école comme terrain d'expérimentation, comme espace d'ouverture pour que les enfants se familiarisent non seulement avec l'univers de Molière, mais aussi avec celui de Star Wars. Un joyeux tâtonnement qui aurait d'ailleurs pu être possible avec le réaménagement des rythmes scolaires si le gouvernement avait pleinement donné aux acteurs de terrain les moyens d'une ambitieuse politique d'ouverture culturelle.
Merci beaucoup Arjuna Andrade, Philippe Coulangeon, Dominique Pasquier. Une réaction peut-être sur ce pass culturel et sur ce qu'il faudrait en réalité mettre dedans. Philippe Coulangeon.
Ouais, deux réactions. D'une part, oui, il ne faut pas sous-estimer les obstacles économiques à l'accès à la culture. Donc de ce point de vue-là, soulever cette question, c'est légitime. Ensuite, le dispositif pose sans doute effectivement un certain nombre de problèmes, notamment ce que les économistes appellent un problème d'effet d'aubaine qui va sans doute falloir contrôler vu les montants que vous avez annoncés sur le coût de la mesure.
Dominique Pasquier, d'un mot.
Alors, j'ai dirigé une thèse que faisait Thomas Lougon sur le pass culture en région Rhône-Alpes et quand même les résultats de ce travail montrent que on offre des places de théâtre, on offre des places de cinéma dans des salles d'art et d'essai et elles ne sont pas utilisées par ceux qui considèrent qu'une salle d'art et d'essai, madame, on n'est pas des clochards. Donc c'est compliqué, il y a quand même beaucoup de réticence à aller dans les lieux de la culture cultivée, labellisée comme telle. Vous faites le pass en disant allez au multiplex, vous avez le droit, ça marche. Donc c'est compliqué.
Tous les jeux, même les plus difficiles.
On se quitte sur TV Addict de Niagara. Merci beaucoup Dominique Pasquier, sociologue, directrice de recherche au CNRS. Votre livre Internet des familles modestes est publié aux presses des Mines. Et merci à vous Philippe Coulangeon, également directeur de recherche au CNRS. Votre livre Sociologie des pratiques culturelles est paru, lui, à la Découverte. Merci beaucoup à tous les deux. Et vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Et rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.